Vous écoutez France Culture. C'est dans la tête que la vie de la poupée tout entière se concentre. Agnès Giard. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Froide et douce, le regard ailleurs et l'écho en quitte, la Love Doll est bien plus qu'un ersatz sexuel ou un sextoy coûteux. Elle est un monde érotique unique, la diva s'en partage d'un monde désirant profondément mélancolique. Voyage dans la Silicon Alley japonaise, au pays des petites sœurs modulables, ce soir dans Mauvais Genre, et ce en compagnie d'Agnès Giard qui publie sur le sujet un maître-livre aux éditions Les Belles Lettres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre mis ce soir sous le signe du Japon et essentiellement de l'érotisme japonais avec un livre que publie Agnès Giard, donc je le répète, aux éditions Les Belles Lettres dans la très belle collection Japon, un désir d'humain, les Love Dolls au Japon. Bonsoir Agnès Giard.
Bonsoir.
Heureux de vous accueillir à l'antenne de Mauvais Genre. Vous étiez déjà venu une fois pour parler, tiens donc, de l'érotisme japonais.
Ah, j'avais eu cette chance.
Voilà, bah vous l'avez de nouveau. On a de nouveau, nous, on en est heureux, la chance de vous accueillir. Donc un secteur que vous, un chemin que vous tracez, un sillon que vous creusez depuis combien d'années maintenant? Votre histoire d'amour avec le Japon, on va en parler plus précisément, mais ça fait 3, 4, 5 volumes, gros volumes, riches, denses.
Oui, oui, oui.
C'est une histoire longue et fructueuse.
Depuis que j'ai 9 ans, en fait. Hein.
Ah bon?
Oui, oui, ça commence tôt, ce genre de choses.
Ah bon, bah vous allez nous dire ce que vous faisiez à 9 ans d'érotique avec le Japon. On est très impatients de le savoir. Je signale quand même que vous êtes toujours aux manettes du blog Les 400 Q.
Voilà, toujours sur Libération.
Sur Libération, et c'est quel en est le dernier sujet? Donc c'est un blog, donc régulièrement des chroniques. Qu'est-ce qu'on peut lire de récent de vous?
Eh bien, mais je peux annoncer le prochain, je
viens de finir l'article. Mieux peut-être, vivons d'avenir.
Un extraordinaire photographe appelé Maglo, qui travaille sur les soirées fétichistes à travers le monde entier.
Ah bah très bien.
Et pour une fois, pas de glamour.
Pour une fois, pas de glamour.
Du réel, donc du trash, de la fange.
De la fange.
De la mort, hein, et ça fait du bien.
Et du mauvais genre. Ah oui, ça fait du bien, ben oui, bah très bien. Vous êtes donc la bienvenue dans cette émission. Vous serez entouré, ben cela n'étonnera personne, de Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Qui a lu et qui connaît par cœur tout Agnès Giard.
Ah ben j'ai tous les volumes à la maison, sur mon étagère de prédilection, je dois dire.
Au-dessus de votre lit, et ça tombe de temps en
temps. Non, jamais sur la tête, car ils sont costauds ces volumes. Mais j'ai les objets de désir au-dessus de mon lit, bien sûr.
Les objets de désir.
J'espère que c'est la même chose
et
pour vous,
plaisir.
François.
Ben, bien sûr, bien évidemment. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Alors je rappelle à nos auditeurs, les fidèles le savent, mais d'autres l'ont peut-être oublié, que vous avez fait un reportage à Lyon, l'atelier et l'usine, le showroom de Jean-Philippe Carry, donc la grande maison française de conception et de diffusion des Love Dolls, et que par ailleurs, bah, vous avez entamé une recherche sur le latin dans la musique métal. Cela en est-il? On vous posera la question à chaque fois. Est-ce que ça a progressé?
Eh bien, cela progresse lentement, et j'invite toujours tous les auditeurs à participer à cette recherche
en
envoyant des contributions.
Les réseaux sociaux sont extrêmement utiles dans ces cas-là. Vous avez lancé un appel qui a été entendu, et n'hésitez
d'ailleurs,
pas.
Je remercie ceux qui ont répondu.
Communiquez vos informations sur le latin dans la musique métal à Sixtine pour ses travaux. Bonsoir Monsieur Rouillet.
Bonsoir.
Monsieur Rouillet qui nous en revient de Lyon, non pas pour aller voir l'atelier des Love Dolls, mais pour être au Festival Lumière.
Ouais, voilà, où on a rencontré quelques cinéastes.
Catherine Deneuve, qui n'est pas une Love Doll.
Catherine Deneuve était là, Quentin Tarantino qui vous salue.
Voilà,
en matière d'Asie, il n'y avait pas d'invité japonais, mais il y avait quand même un Coréen, il y avait Park Chan-wook. Avec son film Mademoiselle, qui sort le premier, qui, je pense, intéressera Agnès Giard.
Et qui parle de?
C'est 1930 en Corée, au moment de l'occupation japonaise.
C'est pas le moment le plus souriant.
Au moment de l'occupation japonaise, une voleuse est placée comme domestique d'une héritière japonaise avec pour mission de convaincre l'héritière d'épouser un comte japonais qui est en fait un voleur. Mais évidemment, tout est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, bah, les femmes vont s'aimer, et peut-être, tout le monde a un jeu de dupes. Et le film est lui-même construit en miroir.
Bon, ben, on est attentif à ce. Vous avez fait de la radio, monsieur Philippe?
Ah, ben, pendant deux heures et demie quotidienne, voilà. J'ai reçu la fine fleur du cinéma Mont-Royal. Je faisais table ouverte. C'était très amusant.
On allait chérouiller. Non
ah, ben, voilà. On allait passer un moment, les yeux dans les yeux. On
voilà.
appelait ça.
Oh, sublime. Voilà. Donc, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, pour clore notre tour de table de ce soir. Fausto
bonsoir, Fazulo, François. Bonsoir, tout le monde.
Qui est dans ses petits souliers. Je ne sais pas quel ce type de souliers
des
vous portez.
Avec des clous, et j'ai très mal
avec
là,
des
je
clous,
crois,
ouais. Parce que, bah oui, c'est le numéro de la revue Mad Movies, le numéro 300, Ding Dong, anniversaire,
ouais.
Avec deux parutions, moi j'en parlerai d'ailleurs lundi dans mon émoi, le guide des films à voir avant de mourir, rien de presse néanmoins, mais
oui,
c'est quand même les films qui permettent
faut se dépêcher,
de ne
pour certaines personnes,
pas mourir
hein.
Idiot. Alors, 300 films classés alphabétiquement, donc on sait quand même... où sont les fantasmes de tel et tel, parce que c'est signé, les articles sont signés.
Les articles sont signés, donc de fait, on décèle très vite les obsessions des rédacteurs.
CB, qui c'est CB? C'est Christophe Beer.
Vous avez visé juste, François, voilà. C'est Christophe Beer, donc je pense que vous allez très vite cerner les obsessions de chacun, effectivement, et notamment celle de Beer,
bon,
que tout le monde
déjà,
connaît, que tout le monde
déjà,
connaît, évidemment.
Les auditeurs de mauvais genre voilà. Sont bien placés.
On commence par l'abominable Dr. Fibes, et c'est Christophe qui s'en charge. Bon, on en dira un peu plus dans les temps à venir. Bah, avec vous, on va parler Japon également, mais manga, et quel manga aujourd'hui?
Virgin Dog Revolution, qui est un manga qui sort chez Akata, dans la collection What the Fuck, et qui est une bizarrerie absolue.
La collection What the Fuck? What is that, What the Fuck?
What the Fuck, c'est une collection, c'est une étiquette comme une autre, mais en tout cas, dans cette étiquette-là, Akata fait entrer tous les mangas assez inclassables à tendance extrême.
À tendance extrême.
Voilà.
Très bien. Bienvenue donc. Un mauvais genre, avant de s'occuper avec tout le soin qu'elle nécessite des Love Dolls en compagnie d'Agnès Giard, eh bien, nous allons ouvrir, bien sûr, l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec ma chère Céline à la lettre, alors D, B ou R? D, D, R.
On va dire à la lettre D.
À
comme
la lettre D.
De Robertis, Déborah de Robertis.
Bah, je suis arrivée au musée d'Orsay, c'était quand même préparé. Je suis rentrée dans la salle où se situait le tableau de Gustave Courbet, pardon, L'Origine du Monde, et j'ai reproduit le tableau, mais en changeant évidemment ce qui me semblait fondamental. Donc j'ai fait le geste d'ouvrir mon sexe, et le geste principal que j'ai fait, c'était d'apporter un point de vue au tableau. Donc c'est pas le spectateur qui regarde le sexe, dans mon cas, c'est le modèle donc, qui renverse ce point de vue et qui regarde le spectateur, mais aussi donc, les gardes, l'institution et le monde, surtout. Et donc, c'est ce renversement de point de vue qui correspond à une volonté d'inverser les rapports de pouvoir. Voilà, et ça, c'est un point important de mon travail.
Que se passerait-il si tout à coup, le modèle avait un visage, ouvrait les yeux et vous dévisageait alors même que vous êtes en train de contempler son sexe? Si cette femme, celle par exemple qui a posé pour L'Origine du Monde, était un corps entier avec un visage et des yeux pour vous regarder? C'est le point de départ de réflexion de Déborah de Robertis, artiste plasticienne, qui questionne la représentation du corps de la femme à travers le point de vue du modèle nu. Déborah de Robertis, une femme qui s'invite là où on ne l'attend pas, un nom qu'on associe un peu facilement au scandale ou au mot exhibition sexuelle, on s'entend, impudique, provocante ou tout simplement politique et féministe, à vous de voir. Déborah de Robertis a cette volonté de rejouer des œuvres qui mettent en scène des femmes, les réinterpréter du point de vue du modèle, mais de façon moderne, de façon active, car pour chaque performance, elle se met dans la peau du modèle et filme le public à l'aide d'une caméra placée sur son front, selon le bon principe de l'arroseur arrosé, du public voyeur qui devient à son tour objet d'observation. Le 21 septembre dernier, l'artiste a réincarné Barbie, par exemple, à l'occasion d'une exposition consacrée à la poupée au Musée des Arts Déco à Paris, en proposant sa propre version de Barbie, son nom, la Femi Barbie, un nouveau modèle de poupée Barbie affranchie avec comme attribut poils, tétons et caméra GoPro sur la tête.
Une Barbie avec des poils est beaucoup moins choquante qu'une Barbie sans poils et sans tétons. Je vois pas pourquoi on l'amputerait de ce qui fait d'elle une femme, c'est une femme. Et ça me paraissait fondamental à changer. Si déjà on veut changer le modèle de Barbie, pour moi ils avaient oublié quelque chose de très important. Et puis surtout, après voilà, la GoPro, tous les éléments que j'apporte, le rap, mon esthétique à moi, C'est aussi une façon de dire, mais votre Barbie, vous voulez une Barbie contemporaine, mais il n'y a rien de contemporain dans quelque chose de vieillot. Donc c'est aussi, il y a cette prise de position, on va dire, plus féministe quant au poil et aux tétons, mais il y a aussi cette prise de position qui est du coup plus artistique de ma part, c'est d'imposer mon esthétique, en tout cas que moi je ressens comme étant plus contemporaine. Dans mon discours, il y a une forme de négation du pouvoir institutionnel ou du discours, ou oui, voilà, on va dire ça comme ça, qui est de dire, mais je n'attendrai pas que mon travail soit reconnu par l'institution. J'attendrai pas, voilà, j'attendrai pas, c'est maintenant. Plutôt que de dénoncer le fait que les femmes ne soient pas assez représentées, toutes ces choses-là qui sont importantes, moi, aujourd'hui, ma démarche consiste à prendre ma place. Et plus que de prendre ma place et que de déranger l'exposition, je m'en sers. Je me sers des noms des institutions, je me sers de leur logo, et c'est vraiment dans mes vidéos, c'est eux qui deviennent l'objet. On va dire que là où dans notre société, ou même dans certaines expositions comme Orsay, je trouvais que c'était vraiment racoleur, on utilise la nudité féminine pour vendre, ou pour... Dans mon cas, c'est l'inverse. C'est cette nudité-là qui utilise à son avantage, au service de ma nudité, de ma réflexion, le nom et le cadre, les murs de ces institutions. Et ça, c'est hyper... là, je me sens... Quand je fais ça, c'est plus que... ce qui est libérateur dans mes performances, c'est pas du tout me mettre nue. Hein. C'est d'arriver et de me dire, mais c'est chez moi.
Pour s'inviter dans l'univers de Déborah de Robertiste, artiste plasticienne, ou pour avoir vent de ses prochaines performances, n'attendez pas de trouver son nom dans les brochures officielles des musées ou autres institutions. Cela dit, tenez-vous prêt, sa prochaine performance se prépare et se tiendra à Paris dans les semaines qui viennent. Elle rendra à sa manière, bien à elle, un hommage à un artiste. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux en attendant de la retrouver le 13 décembre prochain au tribunal de Paris, où elle sera jugée pour exhibition sexuelle, fait qu'elle conteste.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Déborah de Robertis, qui va bien sûr tout notre soutien à Niagia, une réaction sur à la fois la créatrice, la performeuse et ce qu'elle performe.
Bah, en fait, ce qui m'intéresse, elle parle beaucoup de féminisme, mais les hommes aussi, d'une certaine manière, n'ont pas le droit ou sont aussi détournés. Hein. Le corps des hommes est utilisé pour vendre des choses. Ils sont aussi objets de désir. Et il y a des artistes qui se sont mis nus dans des expositions, comme Arthur Gillet, par exemple, au musée du Quai d'Orsay dans l'expo sur le nu masculin. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a aussi un pendant masculin de cet artiste.
Sixtine, sur Déborah de Robertis.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que moi, c'est un sujet sur lequel j'avais un peu réfléchi quand j'avais travaillé sur la Vénus dans les photographies pastiches de David Lachapelle. Et c'est vrai qu'on a finalement ce couvert du sujet mythologique ou du sujet pour autoriser finalement à représenter un corps nu. Et c'est vrai que, de fait, avoir un véritable corps nu au-dessous ne produit pas du tout le même effet.
Donc Déborah de Robertis, on rappelle le prochain rendez-vous.
On ne sait pas.
Voilà, oui, parce que c'est toujours
la surprise, secret et la surprise.
C'est toujours la grande insurrection qui n'est pas prévisible. Ben maintenant, l'heure est venue pour nous de nous orienter en direction des Love Dolls au Japon avec vous, Agnès Giard, et votre ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres, Un désir d'humain. Donc, Un désir d'humain, les Love Dolls au Japon d'Agnès Giard, c'est une thèse universitaire.
À l'origine.
Voilà. Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous ayez choisi ce sujet précisément pour votre thèse, puisque vous avez travaillé et vous travaillez encore sur tous les aspects de l'érotisme déjà en soi, mais plus spécialement tous les aspects de l'érotisme japonais. Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui a...
En fait, ça date de 2001.
Vous qui, dès 9 ans, étiez aimanté par l'érotisme nippon.
Oui, oui. Tout le monde parlait de phénomène du enjokosai, du féminisme à la japonaise, hein, qui consiste à s'habiller en fille, à fabriquer des poupées à la Hans Bellmer, à revendiquer le statut de wagamama, c'est-à-dire de fille égoïste, etc. Et comme ça, c'était très documenté à l'époque, je suis allée voir du côté des garçons pour voir s'il y avait un répondant aux normes, aux injonctions sociales du côté des hommes. Et je me suis aperçue qu'en fait, les hommes fabriquaient des poupées en silicone qui étaient complètement ignorées par les chercheurs parce que les gens pensaient que c'était juste de la consommation de sextoy basique et que ça n'avait absolument aucun caractère de revendication et de réaction à un contexte social et politique. Et c'est pour ça que je suis allée creuser de ce côté-là, du côté des gens qui sont mis de côté, parce que c'est toujours des hommes, donc c'est toujours forcément de villes frustrées, de villes losers qui utilisent des femmes représentées sous la forme horreur de créatures vulnérables et stupides. Ce qui fait vraiment des hommes, encore une fois, de sales machos dans l'imaginaire.
Et alors, le milieu, je dirais, des love dolls, au sens des concepteurs, les fabricants,
voilà.
Les communicants, les consommateurs...
Alors, c'est qui ces gens-là, voilà.
On va en parler, mais ouais. C'est un milieu qui vous a remis les clés assez vite, ou il a fallu du temps pour obtenir leur confiance?
Non, c'était presque immédiat. En fait, dès que je les ai rencontrés, il s'est passé quelque chose qui fait que, en fait, ça fait 10 ans que je suis en contact avec eux, plus de 10 ans d'ailleurs maintenant, et que on s'envoie des mails, ils me tiennent au courant de tout ce qu'ils font, de leur vie privée, etc. Donc,
ils ont trouvé en vous une écoute.
Oui, peut-être.
Fausto.
Non, moi, peut-être revenir simplement aux origines de vos passions et de vos obsessions, faire un petit peu Agnès Jarre de point les origines. Ce que j'ai constaté, en fait, c'est qu'effectivement, depuis peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, il y a pas mal de sujets d'études, d'analyses, de thèses faites autour des cultures populaires ou underground japonaises. Alors après, toutes ne sont pas au niveau des vôtres, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est justement quel a été le déclic pour vous, comment vous avez été exposé, irradié à cette culture-là. Par cette culture-là, pardon, et qu'est-ce qui fait en fait que vous avez réussi un jour à faire sauter en fait le verrou de l'exotisme, c'est-à-dire éviter de placarder une espèce de filtre qui serait un petit peu moralisant ou voilà.
Alors, c'est simple, hein, en fait, c'est Récréa 2, merci, Dorothée, etc. Donc, il y a Leiji Matsumoto qui arrive dans la vie des gosses qu'on est à cette époque. Moi, j'ai 9 ans.
Ah, voilà, c'est Leiji Matsumoto.
Et il y a Albator, en fait, Captain Harlock, en japonais, qui est entièrement vêtu en cuir avec une énorme balafre sur le visage. Il est borgne, il est beau, il est célibataire, il est fétiche, il est nihiliste. Et le dessin animé commence par une fin du monde. Et cette fin du monde-là, qui est inaugurale, me bouleverse complètement, parce que quand on est enfant, on a toujours peur de perdre ses parents, etc. Hein. Quand on a lu Babar, on a beaucoup pleuré. Et Bambi, c'était vraiment le traumatisme. Et le traumatisme recommence avec la série de Matsumoto. Et d'une manière qui est, cette fois, pour une fois, intéressante, parce qu'elle débouche sur un questionnement sur la notion de bien et de mal. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, en suivant le dessin animé, que celui qu'on considère comme le héros est en fait en train de se tirer une balle dans le pied, puisqu'il attaque des femmes qui sont censées être les méchantes, dont on apprend qu'elles essayent de sauver la planète Terre. Et ça, brusquement, pour un enfant qui jusqu'ici a été élevé dans une idéologie, disons, assez simpliste, hein, c'est très binaire, si il faut être du côté des bons, et puis quand on aime des gens qui ont l'air un peu mauvais garçon, on se pose des questions sur soi-même. Et là, du coup, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et de se dire, il faut que j'aille au Japon pour savoir pourquoi je suis SM, pourquoi j'aime le cuir, pourquoi j'aime la douleur, pourquoi j'aime les choses négatives. Peut-être que là, ça me permettra de mieux comprendre.
Fausto.
Non, du coup, le premier voyage, le voyage qui a été un petit peu la scène primitive, en fait, c'était quoi? C'était quand?
Alors, c'était assez tardif, parce qu'il fallait quand même avoir suffisamment d'argent pour partir pendant un mois. Et je suis partie sur un reportage qui m'a complètement mise par terre. J'ai fait une grosse dépression, j'ai perdu 6 kilos. C'était sur les Kogalou. C'est-à-dire, ça m'intéressait, c'était des filles qui, pour moi, étaient novatrices, dans le sens où elles se prostituaient, elles s'habillaient d'une manière extrêmement vulgaire, et elles s'exhibaient dès 6 heures de l'après-midi, en plein Shinjuku, qui est vraiment le quartier du shopping à Tokyo. Et je vais voir ces filles en leur demandant, mais pourquoi vous faites ça? Et en fait, je ne comprends pas leur réponse. Et il me faut énormément de temps. C'est-à-dire, elles disent « je sais pas ». Alors évidemment, à force de poser la même question et de voir passer des centaines de jeunes filles qui prétendent qu'elles ne savent pas, qui prétendent qu'elles font comme les autres, on se dit « mais je me suis peut-être trompée, je suis tombée sur une armée de clones décérébrés, etc. » Jusqu'au jour où je tombe sur l'ouvrage « Poupée robot » de Gomarasca, qui parle d'un féminisme qui n'est pas du tout celui auquel j'ai l'habitude, qui est le conformisme parodique, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas de manière frontale au Japon, on renvoie à la société l'image idéale de la femme en l'exagérant et en la rendant grotesque. C'est-à-dire, vous voulez des poupées? Eh ben, on va être des super poupées cruches. Et je vois d'ailleurs défiler dans les rues, voilà, des quiches, des filles qui sont habillées en poupées de l'ère victorienne, en poupées porcelaine, avec des baillons boules dans la bouche. Et là, enfin, je comprends. Et je comprends aussi du même coup pourquoi les garçons, parallèlement, fabriquent des poupées en silicone. Ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des otaku, c'est-à-dire stigmatisés comme personnes renfermées, incapables de nouer des liens sociaux, etc. Et ils en rajoutent, c'est-à-dire vous considérez qu'on est des enfants immatures, eh bien nous allons nous entourer de petites filles en silicone qui renvoient l'image de personnes décidément incapables de fonder un foyer.
Crumbs par Cibo Matto, un extrait de l'album Super Relax, Agnès Giard. Ça a l'air de vous réjouir, cette musique.
Oui, j'aime beaucoup. C'est un instrument du Mali.
Ça faudra demander à Delphine Lemaire, qui réalise l'émission aujourd'hui. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Alors, attaquons Franco de Porsche et des rayons d'emballage, puisqu'il y a souvent les questions de transport et d'envoi postal pour les Love Doll. D'abord, ce mot Love Doll, je veux dire, c'est donc un anglicisme. Nous, on l'emploie comme ça. En japonais, quel est le mot exact sur le plan de la terminologie et de la définition de l'objet lui-même? De quoi s'agit-il?
Alors, le mot, hein, c'est du waseigo, c'est-à-dire ça se prononce rabedore et ça ne se conjugue pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de waseigo. C'est un mot qui a l'air d'être emprunté à l'anglais, mais il est intégré aux normes de la grammaire japonaise. Donc, au pluriel comme au singulier, c'est rabedore. C'est pour ça que je ne mets pas de S à Love Doll.
Donc ça, c'est l'aspect linguistique. Et voilà. Comment peut-on alors définir l'objet, puisque la confusion est à portée de main entre les poupées gonflables, tout
oui.
est... Voilà, il faudrait avoir une définition spécifique de la Love Doll, puisqu'elle est au cœur de notre émission, et pour éviter qu'il y ait de mauvais oui. départs de compréhension...
Donc il y a deux grandes catégories, celle en plastique, en soft vinyle, un plastique mou, un peu comme les Barbie d'ailleurs, coûte pas cher, elle coûte enfin pas trop cher, c'est 1900 euros, elle pèse 8 kilos et elles sont livrées en 8 morceaux, donc les bras, les jambes, la tête, le corps et le vagin, comme d'habitude, hein, toujours le vagin à part. Et ce qui est très pratique, comme on peut les mettre en pièces, on peut les ranger dans une petite boîte qu'on glisse sous le lit, donc c'est vraiment gain de place. Le souci, c'est que les glissières sont prismatiques ou rotoïdes, c'est-à-dire que les gestes de la Love Doll s'apparentent à ceux d'un capot qu'on essaye de relever, hein, ça coulisse le long d'une rainure. Et l'autre souci aussi, c'est que quand on veut la coucher sur le lit, il vaut mieux avoir acheté les jambes en position allongée. Sinon, on est obligé d'acheter deux paires de jambes hein, pour l'asseoir sur une chaise ou pour la coucher sur le lit. Alors, l'autre catégorie, c'est les Love Dolls en silicone qui pèsent 28 kilos à 30 kilos, qui coûtent 7000 euros et qui sont livrés en trois morceaux seulement, donc la tête, le corps et le vagin extractibles, et qui prennent beaucoup plus de place, hein, parce qu'on peut pas les ranger juste dans une armoire. C'est assez encombrant. Mais en même temps, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il y a un squelette à l'intérieur, et si on paye une option supplémentaire, on a même droit au squelette des doigts. C'est-à-dire que la poupée peut, par exemple, faire mine de saisir sa culotte entre ses doigts. C'est très joli à voir.
Alors là, vous nous avez fait une description technique et budgétaire très précise de ce qu'est l'univers de la Love Doll. Mais elle, en tant qu'objet, je dirais générique, comment on peut la définir?
Alors,
par rapport aux poupées gonflables, par rapport à tout ce qui est ustensiles sexuels, érotiques.
Oui, au Japon, on appelle Love Doll parce qu'on considère que c'est un sextoy de tellement mauvaise qualité qu'il vaut mieux pas la vendre comme sextoy. Elle est très lourde. Elle est très encombrante, elle est difficile à manipuler. Et en revanche, elle fait une parfaite partenaire sentimentale et amoureuse, disent les fabricants. Et ils n'ont pas tout à fait tort de prévenir les clients dès le départ. Parce que c'est vrai que certains clients qui voudraient acheter la Love Doll pour juste se satisfaire, la revendent au bout de 2 mois sur Yahoo Auction. Ce qui fait plutôt mauvais effet pour les fabricants, en fait. Hein. Donc, au Japon, c'est quelque chose qui est assez courant de dire dès le départ. Je l'ai acheté parce que voilà, c'est un miroir de mes émotions. Elle me permet de projeter sur elle des affects et de nouer quelque chose qui ressemble à une histoire merveilleuse.
Alors, Love Doll japonaise est donc une poupée érotique. Quelle en est la taille, le poids, si on essaie de la dimensionner ?
Alors, la taille, ça va de 1m10 à 1m80.
1m80 ?
Oui, ils ont aussi fait des modèles occidentaux. Ça a eu du succès. Mais ça dépend, c'est vraiment les fabricants. En moyenne, c'est quand même 1m50 hein, qui correspond à la taille idéale pour les otaku. Parce qu'il faut bien le comprendre.
C'est quoi les otaku ?
Voilà, les otaku, c'est les renfermés. Otaku veut dire chez soi. C'est une catégorie de la population japonaise qui est vraiment adepte des univers virtuels et qui préfère vivre avec une poupée qu'avec une femme en chair et en os.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors là, on vient d'évoquer avec vous, Agnès Gire, le marché japonais et sa clientèle et sa technologie, mais on va entendre là celui qui représente la Love Doll à la française, dont Jean-Philippe Carrie, rencontré à Lyon et qui est à la tête de la société Doll Story. Effectivement, la question qui lui a été posée était de caractériser, de singulariser la Love Doll. Quelle est sa différence par rapport à la Sex Doll?
Celle-ci s'appelle des Love Doll par opposition aux Sex Doll, qui sont, elles, conçues vraiment pour le sexe et qui n'ont pas ce côté élégant que nous, on propose. On propose une gamme de poupées, elles sont soft, elles sont reposantes, on peut les mettre dans un salon, on peut les regarder. Elles sont pas, elles n'ont pas la bouche grande ouverte avec la langue pendante. Donc c'est ce qui nous distingue un petit peu, et ça, c'est mon marché, les Love Dolls. Voilà.
Alors, la différence qu'il y a entre la Sex Doll et la Love Doll, c'est qu'avec la Love Doll, on a un rapport câlin, amoureux, moins, je dirais, frénétiquement érotique.
C'est ça. Quand j'ai commencé ce business, si vous voulez, moi, je pensais vendre une poupée à destination sexuelle. Je me posais pas plus de questions que ça. Et en fait, aujourd'hui, si ce business fonctionne, c'est parce que les clients s'attachent à leurs poupées. Et ça, je l'ignorais complètement à l'origine, quand j'ai bâti ce projet. Aujourd'hui, on se rend compte que vraiment, les clients se prennent d'affection pour leurs poupées. Et ça devient pour eux un objet très, très précieux. C'est une compagnie. C'est vraiment, donc c'est pour cette raison qu'on crée des visages qui sont souriants, reposants, qui amènent une présence sympa. Voilà. Contrairement à une sex doll qui sera insupportable à regarder dans son salon au bout de 3 jours, quoi. Voilà.
Voilà, Jean-Philippe Carry à la tête de la société Doll Story, Agnès Giard.
Alors c'est intéressant parce que lui est le représentant sur l'Europe d'une firme japonaise. Hein. Donc
Forwoods,
oui, 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 tout à fait. Il a obtenu le droit de reproduire des poupées Forwoods après le Fukushima, parce que le créateur de Forwoods avait peur que ces poupées disparaissent en même temps que les êtres humains tous irradiés, etc. Donc c'est une histoire assez terrible. Comment faire survivre les poupées dans un monde pollué, etc. Alors, ce qui est très intéressant, ce que vient de dire Jean-Philippe Carry, c'est, en fait, il oppose les real dolls, très clairement, les real dolls, les poupées américaines, aux poupées japonaises. Quand il parle de la langue pendante, etc., bon, il exagère un peu, mais là, je pense que très clairement, il désigne les poupées américaines qui sont effectivement assez embarrassantes à regarder, parce qu'elles reproduisent le prototype de la porn star. Ouais. Elles ont vraiment les cuisses très écartées, la nuque raide, elles fixent l'utilisateur et elles le mettent littéralement en demeure de passer aux actes. Alors qu'avec les poupées japonaises, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que elles sont conçues de telle manière qu'on ne puisse pas croiser leur regard. Elles ont toujours un air absent, des yeux plongés dans le vague, une sorte d'expression introvertie, comme frappée de myopie ou de strabisme, et avec une focale des prunelles réglée sur une distance courte, comme les statues de Bouddha, qui font que, quel que soit l'endroit dans la pièce où on se trouve, et même si on se met vraiment devant la poupée, on a toujours l'impression que son regard va vous traverser et passer à travers vous vers un point insondable. Donc, les love dolls japonaises présentent ceci d'absolument extraordinaire, que elles renvoient à une autre dimension. Avec elles, le jeu, d'une certaine manière, c'est un jeu qui consiste à articuler le monde invisible avec notre réalité.
Ce qui est intéressant aussi, Agnès Giard, c'est que lorsque vous parlez des love dolls, pour avoir quelques chiffres, ce sont les chiffres que vous citez dans votre livre, c'est environ 1000 poupées par an qui sortent par an, je crois.
Alors,
c'est ça,
oui, entre 1000 et 3000, c'est très
pour,
peu.
Pour ouais. 13,6 millions de célibataires au Japon, donc ouais. On a bien affaire à une niche. Mais ce que j'ai trouvé de moi absolument passionnant dans votre livre, c'est que c'est une niche, ça correspond en effet à un public très limité, mais à travers ces poupées et à travers ce public-là, se dessine finalement en creux la société japonaise à travers donc son rapport au désir, au fantasme, les relations de séduction homme-femme, la place des objets aussi dans cette culture qui est évidemment très différente de la nôtre. Et alors notamment, je reviens sur ce que vous venez de dire sur le regard de ces fameuses poupées, même la manière dont les yeux sont placés, le fait que le cou soit aussi mis d'une certaine manière, tout ça, ça dit beaucoup sur la séduction à la japonaise, en tout cas dans ses codes traditionnels.
Oui, donc il y a une dissociation qui est à l'œuvre dans le corps de la poupée, qui fait qu'en fait on a affaire à quelqu'un qui, d'une certaine manière, induit l'idée qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'elle est dans une direction tout en étant dans une autre, elle est partagée entre différentes pensée, pense-t-on. Enfin, il y a tout de suite, on fait des projections.
Et ça correspond au petit coup d'œil de côté. Racontez-vous qu'il peut y avoir entre un homme et enfin entre une femme et un homme, une femme qui regarde un homme, qui jette un petit coup d'œil et qui détourne du regard.
Ouais, le petit jeu de séduction des lycéennes, c'est le nagashime. C'est-à-dire, c'est un peu, je joue à la pêche à la ligne avec les garçons en leur jetant un coup d'œil très vif par-dessus, si possible les lunettes. Hein. Les lunettes, c'est vraiment l'accessoire érotique suprême. Et ensuite en détournant le regard et si possible ensuite en montrant ma nuque, hein, parce que la nuque va quand même rester l'élément fondamental de la séduction, dans la mesure où le garçon aura l'impression que ça y est, c'est passé, c'est trop tard, il a raté son coup, l'objet de désir s'efface, disparaît. Et cette idée de la fin d'une relation, de la fin annoncée, de la mort, de la disparition programmée de l'être aimé, est vraiment quelque chose qui est très codifié au Japon.
Philippe. Alors Agnès Girard, ce qui est très bien, c'est que ça, vous l'expliquez dans votre livre, et c'est un des aspects qui, moi, m'a particulièrement intéressé. C'est-à-dire que vous décrivez comment est la poupée, mais vous rattachez toujours à la société japonaise, ce qui fait que le lecteur n'a pas besoin d'être hyper calé sur la société japonaise pour comprendre. Et c'est ça qui, moi, m'a particulièrement plu dans votre livre. Et aussi, cette idée que, puisque, comme vous l'avez dit, les Love Dolls sont en trois parties, on n'est pas forcé d'acheter, au bout du compte, les trois parties d'un coup, et que très souvent, c'est avec la tête que ça commence. Et ça rebondit sur ce que vous disiez à l'instant sur le regard, parce que c'est presque comme dans une relation amoureuse, c'est d'abord un coup de foudre, et c'est après que, évidemment, avec c'est un visage. Peu triste d'avoir que la tête, alors vous allez compléter. Et il y a donc des firmes qui mettent un point d'honneur à sortir une tête différente par mois, et des gens qui vont collectionner en quelque sorte les têtes.
Et vous citez même un collectionneur qui a 8000 têtes et 11000 corps. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est absolument phénoménal. Je sais plus, je me trompe peut-être sur les chiffres. Enfin, et qui peut se livrer à des compositions un peu presque florales, une espèce d'ikebana érotique avec toutes ses têtes, tous ses bras, alors, tous ses doigts. Enfin, c'est extraordinaire.
Il met les têtes sur des étagères.
Voilà.
En attendant, parce qu'il n'y a pas assez de place chez lui pour avoir autant de corps qu'il y a de têtes. Et évidemment, elles ont toujours un petit air un peu triste, hein. Elles ont été un peu mises de côté sans leur corps. Donc il dit, ah oui, c'est kawaiso, ça fait un peu pitié, parce que donc j'essaye de les consoler en arrangeant bien la perruque et les cheveux, je les coiffe et je leur dis des mots doux, parce que les pauvres, elles ont compris que pour l'instant, j'avais pas envie d'elles. Mais dès que j'ai de nouveau envie d'elles, ben, je les mets sur un corps, et en fait il leur offre des corps un peu comme on offrirait une robe à une femme, quoi.
Mais ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est voilà, les pauvres, elles comprennent que, et c'est que les poupées sont investies de pensée, c'est-à-dire que les acheteurs ou les collectionneurs investissent les poupées de pensée. Et d'ailleurs, si vous n'avez plus envie d'une poupée, les fabricants vous prient de la renvoyer pour... Il y a tout un rite mortuaire. C'est, on met ah pas oui, sa
la,
poupée.
La poupée est personnalisée, c'est-à-dire quand elle retourne dans sa famille, on ne parle à aucun moment d'une marchandise et d'un
qu'on stocke ou qu'on déstocke.
C'est une histoire d'amour qui prend fin. C'est une histoire d'amour qui prend fin et voilà.
Oui. C'est-à-dire, en fait, il y a un système de vocabulaire dont tout le monde est complice. Hein. Les médias, les journalistes participent, autant que les clients et les fabricants. Donc, tout le monde fait bien attention à ne jamais prononcer le mot service après-vente, par exemple. Hein. Ça, c'est vraiment l'expression qui fait horreur. Non, on va la renvoyer chez les parents. Et si on ne peut plus la garder ou qu'elle est abîmée, au lieu de la jeter à la poubelle, donc il y a une sorte de contrat tacite qui fait qu'on la renvoie à l'usine, donc chez ses parents évidemment, et là le fabricant va procéder à une cérémonie funèbre avant de la confier à une entreprise de recyclage, parce qu'on estime que c'est un être vivant, elle a été contaminée par l'humain, et d'ailleurs quand ils ouvrent la boîte dans laquelle la poupée a été mise quand elle est renvoyée, ils font toujours très attention de vérifier si elle a été aimée ou pas, parce
c'est ça,
que
ils découvrent, vous expliquez,
ils découvrent, était bien traité.
Il découvre sur la
sur son visage.
Oui, c'est pas des coups.
Ça n'est
pas...
plus le même visage. Voilà. Ils sont capables de dire de quelle manière le visage a changé et si elle a été aimée ou pas.
Et vous en rendez compte?
Alors. Non.
On peut remettre aussi, c'est ce que vous faites dans votre livre, et puis aussi dans les objets de désir dont vous aviez déjà un petit chapitre qui était consacré au Love Doll, c'est qu'en fait, quand vous parlez même de cette cérémonie funéraire, c'est que ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général que le Japon a avec les poupées. Oui. Vous citez dans votre article sur les Love Doll la fête de la poupée qui est le 3 mars, une histoire qui date de quelques millénaires.
Hein. Et c'est vrai qu'en fait, les cérémonies funèbres pour les Love Doll ont lieu en même temps que celles pour les poupées Barbie, les peluches,
les objets,
les figurines, etc. C'est-à-dire que toutes les poupées sont mises dans le même continuum.
The End par le groupe Blood, un extrait de l'album Lost Sky. Alors Agnès Giard, il y a maintenant que, imaginons, on reçoit la poupée, on a défini un peu, je dirais, l'assemblage que l'on souhaite sur la couleur des cheveux, les yeux, les doigts, l'orientation, on peut la moduler et tout. Le quotidien, justement, d'un homme qui vit avec, qui partage, je dirais, l'amour et la passion avec une love doll, puisque vous citez des exemples absolument extraordinaires. Cet homme qui a une love doll, mais qui ne veut pas la montrer à sa femme, donc il la démonte et qu'il la cache dans une armoire, comme il a un appartement un peu petit, donc il est toujours obligé de l'entreposer en morceaux dans un coin. Et un autre, avec sûrement plus de moyens matériels, qui a carrément un studio, où il l'a mis en ménage, un peu comme une maîtresse officielle, et il se rend dans le studio, ah oui, où il y a la love doll. Donc, la vie au quotidien offre tous les scénarios possibles.
Oui, oui, on met en place des mises en scène, un peu comme on est au cinéma. Hein. C'est une actrice et elle va interpréter tous les rôles qu'on veut. On la paramètre. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça commence avec l'ouverture du carton de livraison qui s'ouvre comme les bouts de soudan, c'est-à-dire comme les armoires bouddhiques dans lesquelles on place la photo du grand-père ou de la grand-mère qui est morte. Donc on ouvre ce carton et ensuite on va ouvrir toutes les petites boîtes qui composent la poupée. On va la monter et on prend tout en photo. Absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a un site qui a été créé soi-disant par la poupée dans lequel on assiste à l'apparition de cet être. Et ensuite, c'est elle qui va écrire le texte. Parce que très souvent, le journal intime de la poupée permet de la mettre en scène comme une personne qui va parler de son propriétaire à la troisième personne. Aujourd'hui, il m'a offert des bottes, regardez. Aujourd'hui, il m'a offert à manger. C'était un gâteau à la fraise. Et on voit toutes les photos. Donc, en fait, la vie quotidienne de la poupée est documentée. Et c'est grâce à ça que a pu se former une énorme communauté d'utilisateurs dont on voit bien que la poupée leur sert finalement de moyen d'établir entre eux des échanges et parfois même d'organiser des soirées, restos ou...
Les poupées sont là à côté de leur mentor.
Voilà, et il y a même eu des partouzes. C'est-à-dire que des gens ont commencé à faire de l'échangisme avec leurs poupées, etc.
Il y a donc des bordels de poupées aussi, de toute façon.
Alors, ça, c'est une autre histoire. Là, c'est, à mon avis, il y a eu une sorte de tentative malheureuse et ratée. D'ailleurs, ça n'a duré qu'un an. Mais ça a été absolument effroyable, disent les fabricants. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vendu autant de poupées et qu'en même temps, ils ne voulaient pas les vendre. Ils avaient même inscrits sur tous, hein, sur leur site, c'était marqué « Nous refusons de vendre des poupées à des personnes qui voudraient les prostituer ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils trouvaient ça affreux que les poupées soient livrées à des personnes incapables de les aimer. Et c'est vrai que le problème avec ces bordels de poupées, c'est qu'ils ont été essentiellement été fréquentés par des curieux, des gens qui en fait n'avaient pas d'affinité particulière pour ces objets.
Ou qui ne voulaient pas dépenser 7000 euros et qui voulaient voir ce que c'était, quoi.
Voilà, absolument. C'était une sorte de test, un peu comme on essaye une voiture, finalement. Mais le problème, c'est que le test était généralement très malheureux. C'est-à-dire que les clients n'arrivaient pas du tout à bander devant la poupée, parce que finalement, c'est très compliqué hein, de bander pour une poupée, ça, il faut le savoir. Et ils le racontaient. C'est-à-dire qu'il y a eu des blogs avec des photos, avec les commentaires, tous absolument pathétiques, misérables, sordides, et qu'on voyait même des photos des poupées après l'usage répété au bout de plusieurs mois, de toutes les fractures, les amputations, le silicone déchiré, etc. C'était horrible. Résultat des courses. Alors qu'en l'espace de un an, c'est-à-dire entre 2003 et 2004, le nombre de bordels de poupées était parti de zéro à pratiquement, je ne sais pas, il y en a peut-être eu 50 000 sur le territoire japonais. L'année d'après, il n'y en avait plus que 6 000 et l'année d'après, 60. Et à l'heure actuelle, je n'en ai plus repéré que 6. Et encore, c'est des livraisons à domicile.
Mais alors, Agnès Giard, donc là, on évoque les bordels de poupées. Le rapport, donc le vagin est amovible et le rapport avec la poupée se fait de manière très protégée.
Oui, alors ça, c'était un... Oui, un... sujet d'étonnement pour moi. Donc, ce qu'on appelle le nakadashi, c'est-à-dire l'éjaculation à l'intérieur, en fait, ça passe pas du tout hein, avec les poupées. On met toujours le préservatif comme s'il s'agissait de son épouse. Alors, il faut le savoir, l'usage de la pilule n'est pas du tout répandu au Japon.
On fait pas prendre la pilule à la poupée, quand même.
Non, mais comment dire ? D'une certaine manière, ce qu'on fait à la poupée, c'est un peu ce qu'on ferait à son épouse. Or, il faut savoir que seulement 2% des femmes japonaises prennent la pilule. Donc, la poupée, finalement, on utilise le préservatif comme on le ferait avec une épouse qui, comme la majorité des femmes, ne prend pas la pilule. Et ça veut dire que non seulement on achète des vagins neufs, hein, parce que les vagins sont faits pour durer environ 3 mois. J'ai calculé si on a tant de relations par mois, etc. Donc, d'une certaine manière, la poupée est vierge tous les 3 mois, hein, le nouveau vagin tous les 3 mois. Si on l'utilise beaucoup. Et en plus, on utilise des préservatifs. C'est très étonnant.
Alors, on va réécouter Jean-Philippe Carré qui va justement nous expliquer, ma foi, qu'il y a effectivement le rapport sexuel, la dimension érotique, mais également toute une dimension, on dirait, affective et purement sentimentale.
Bien sûr, je pense qu'ils ont des rapports sexuels avec leurs poupées, bien entendu. Mais je pense essentiellement au début, parce qu'il y a une notion de fantasme. Donc ils vont profiter, ils vont jouer avec leur poupée au début. Ensuite, cette relation va se transformer en de l'affection, en contemplation, c'est exactement le mot. Beaucoup de nos clients font des photos de leur poupée, créent des blogs, échangent avec d'autres propriétaires de poupées, échangent sur des forums, et puis certains même regardent la télé avec leur poupée, ils aiment les habiller, les changer, les coiffer, les maquiller, leur acheter des bijoux, des chaussures. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense. Beaucoup plus que la notion de sexe pur et dur. Elles sont dotées de fonctions sexuelles, bien sûr, elles ont des orifices. Elles ont 2 orifices. Elles ont un anus et un vagin. Nous, on ne propose pas la bouche parce qu'il est très compliqué de faire un visage élégant avec la bouche ouverte. C'est aussi simple que ça. En plus, notre gamme de poupées présente l'intérêt de pouvoir interchanger les visages. C'est-à-dire qu'on peut avoir un corps de poupée et puis 4 ou 5 visages. Et le système qui permet de clipser les têtes sur les corps empêche de créer une profondeur dans la bouche. J'ai été clair, c'est un système un peu technique, mais voilà, c'est un peu difficile d'avoir un orifice buccal praticable.
Adesia ?
Oui, en fait, tous les fabricants me disent la même chose. Hein. Au Japon, c'est simple. Si on faisait une bouche pénétrable, la Love Doll perdrait absolument toute sa capacité à refléter les émotions et à être un parfait miroir au fantasme.
Dolls, évidemment, par Kinski Elevator, un album They Were In Love, 16 Note Bear.
Bonjour Agnésia. Alors du coup, moi, ce qui m'avait particulièrement intéressée dans votre livre, c'était la dernière partie sur laquelle vous faites un retour finalement à la culture contemporaine japonaise. C'est-à-dire que vous historicisez et vous soulignez donc le lien justement avec la sous-culture otaku. Donc on a déjà expliqué au début ce que c'était. C'est effectivement ces individus qui sont casaniers et un peu obsessionnels, qui sont une forme extrême, on pourrait dire, du geek occidental et qui vivent donc recrues dans ce monde virtuel et se nourrissent de la fiction. Et ils forment au Japon une sous-culture qu'on a vu se développer sous 3 générations dans le Japon d'après-guerre et qui, en fait, est par conséquent une espèce de forme d'assimilation de l'hégémonie culturelle américaine en sauvant un peu ça et là des motifs japonais. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée à ce niveau-là, c'est que ça venait en fait confirmer
Une intuition que j'avais eue tout au long de ma lecture de votre livre, qui était qu'on pouvait en fait utiliser les analyses d'Hiroki Azuma, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un spécialiste de philosophie et technologie japonais, et qui a écrit, qui a notamment créé les concepts de base de données et d'éléments d'attraction dans un livre qui s'appelle « Génération Otaku, les enfants de la postmodernité ». Son idée, c'est que désormais, dans la société postmoderne où il n'y a plus l'impératif de la raison, l'impératif de la logique, et donc qui tourne donc plus dans des virtualités du ludique, le consommateur de fiction, notre otaku, peut disposer d'un certain nombre d'éléments stéréotypés qu'il réunit selon ses goûts, donc ça c'est les éléments d'attraction, et qu'il met dans sa base de données, donc il engrange lui-même, et qu'il assemble à loisir pour créer à chaque fois des micro-fictions, des micro-récits. Et on voit comme cela fonctionne ici bien pour parler de la possibilité des choix innombrables et en même temps très précis de chaque détail pour la poupée. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien choisir les yeux, la couleur des cheveux, les poils pubiens, les couleurs des tétons, etc. Et donc tous ces éléments sont pris selon ses préférences en matière de femmes et réassemblés pour créer en fait plus, disons, un fantasme féminin. Puisque vous montrez bien que le réel n'est pas vraiment le critère de référence dans le cas de la Love Doll. Et en fait, moi je pense qu'on peut ensuite continuer cette idée en utilisant en fait différentes tenues, différentes, par exemple, je ne sais pas moi, soubrette ou
vous parlez... Oui, on la paramètre à volonté, on change ses identités. Oui.
Et tout cela pour recréer en fait des histoires qui permettent effectivement d'échapper à l'impératif social du mariage.
Oui. Un peu comme les avatars de jeux vidéo finalement. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que les otaku pour moi sont moins le résultat d'une hégémonie culturelle américaine que d'une réaction très forte désespoir par rapport à un contexte social et économique qui est extrêmement négatif au Japon, c'est-à-dire qu'une grande partie de la population a l'impression qu'elle ne pourra pas parvenir à répondre aux injonctions. Il y a une pression qui est trop forte, et ce qu'on attend d'un être humain dans la société actuelle, c'est-à-dire qu'il soit performant, rentable, producteur, voire reproducteur, de façon à assurer une croissance à l'infini qui nous mène tous droit dans le mur, et ben beaucoup de gens n'en veulent plus. Ils veulent pas non plus reproduire le schéma papa-maman, parce que papa et maman, finalement, ils sont pas heureux. Et les otaku, c'est ça, en fait. C'est des gens qui prennent sur eux, finalement, ce poids énorme de la douleur sociale, et qui décident de faire le sacrifice de leur propre vie, plutôt que de changer la société en allant faire des manifs dans la rue, suivant un modèle occidental. Et ben finalement, ce sont des féministes aussi, dans le conformisme parodique dont je parlais au tout début. C'est-à-dire que ils vont dire, puisqu'on peut pas changer la société, c'est un peu ce que les Japonais ont la sensation, finalement, une sensation d'impuissance. Et ben ça se reflète dans le visage de la poupée. La poupée est triste, fondamentalement. Elle est triste et elle reflète une impossibilité et un échec qui est programmé. Et cet échec, finalement, renvoie au vide et au néant. Parce qu'avec elle, ce qu'on va construire n'est pas possible à réaliser dans ce monde-ci. Donc finalement, elle renvoie à l'idée d'une autre vie, peut-être.
Moi, je dirais que cette idée du visage de la poupée triste ou de la poupée absence ou de la poupée correspond plutôt justement à ce que vous dites aussi à propos des lois contre la représentation de l'organe sexuel, et qui en fait par compensation en fait. C'est la définition du fétichisme dans la psychanalyse, qui dit qu'en fait, comme on ne peut pas représenter le phallus, le traumatisme conduit à investir autre chose. Et donc vous dites bien que ces poupées sont vendues sans organes.
Avec un organe en option.
Et donc tout est sexualisé autour, mais sans l'être de manière explicite. C'est du sexuel caché.
Agnès Girard.
Oui, alors la poupée est vendue avec un trou, littéralement un orifice béant, qui renvoie au néant de l'être humain, de la conception qu'on se fait d'un être humain en projet. C'est-à-dire, il faut arrêter de penser, suivant un modèle occidental courant, que l'être humain, son identité, elle vient du biologique. La poupée renvoie à l'image d'un humain qui n'est rien, qui est en attente d'être animé et qui va recevoir finalement sa personnalité, son étincelle, son âme, son existence de l'extérieur. Et je trouve ça finalement très beau que des gens achètent une poupée en se disant, ben voilà, je vais construire un être qui finalement n'est pas différent, c'est moi. c'est moi que je vais construire à travers elle.
Et donc, qui est autre chose que l'être qu'il est à proprement parler dans sa matérialité.
Eh bien, on a tous l'espoir et le désir d'être autre chose que ce qu'on est dans sa matérialité.
Oui,
en
bien
fait,
sûr.
Hein. C'est en fait, la poupée nous confronte à ce désir-là intense, presque éperdu, de jeter un pont au-delà de nous-mêmes. Et elle le matérialise, et elle le concrétise d'une façon qui, à mon avis, est assez poétique.
Mmh. Donc,
Fausto Fazulo. Ouais.
Non, je voulais juste raccrocher de manière fictionnelle en fait à ce que vous disiez concernant les otaku. Moi, ça m'a rappelé un film que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle Hello My Dolly Girlfriend, qui a été réalisé par un mangaka et cinéaste qui s'appelle Takashi Ishii, qui est un spécialiste du manga SM qui malheureusement n'a jamais été traduit en France. Et c'est assez intéressant puisque le film raconte comment un otaku qui est brimé en fait au travail, donc c'est un salaryman otaku en fait, trouve sa planche de salut à travers une love doll qu'il recueille chez lui et qui va se transformer en être vivant et qui va le protéger littéralement de tous les soucis de sa vie quotidienne. J'ai trouvé le film très beau et très juste, notamment dans sa façon de ne pas stigmatiser les otaku et d'ouvrir une espèce de fenêtre d'espoir justement à travers la love doll. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah non, malheureusement.
Alors malheureusement, le film n'est jamais sorti en France. Et Takashi Ishii, c'est quelqu'un de très très sous-estimé et pas du tout connu en Occident. Mais je crois qu'il y a possibilité de voir le film par des biais plutôt officieux.
Il y avait Air Doll, le film de Kore-eda, qui est sorti en 2010, qui était à Cannes, et que vous avez vu avec Donabe, cette actrice coréenne absolument merveilleuse,
ouais.
Où c'est une sorte de Pinocchio avec la Love Doll, c'est-à-dire que c'est la Love Doll qui prend vie.
Ouais, ouais.
Et là, en fait, le réalisateur Kore-eda, réalisateur japonais, a travaillé avec des vrais fabricants, avec Orient ouais. Industries, en
avec
fait.
Avec Orient Industries, qui est
qui est
le
la principale ouais. société de fabrication
ouais,
de Love Doll.
Qui est l'inventeur de la Love Doll en 1960. 77, ouais.
Monsieur Philippe, vous avez bien trouvé quelques films.
Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'effet miroir de la poupée que vous décrivez, c'est-à-dire que justement le fait qu'il n'y ait pas ce regard direct, etc., qu'on va pouvoir projeter sur la poupée et que du coup celui qui regarde la poupée va se découvrir lui, on le découvre dans la plupart des films intéressants qui parlent de poupée. Alors pas forcément de Love Doll, parce que des Love Doll japonaises, moi j'avais vraiment trouvé que mais par exemple, le grand film de poupée, qui est le film espagnol de Berlanga, Grandeur Nature, en 73, avec Michel Piccoli, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le type est apparemment bien, il a une femme, une maîtresse, un bon boulot, c'est le contraire du type reclus, et finalement, il va avoir ce besoin de solitude, ce besoin de poupée pour découvrir qui il est vraiment. Et c'est la même chose dans ce film avec Ryan Gosling, qui était une fiancée pas comme les autres. Je sais pas si vous avez vu ce film de Greg Gillespie, où le type finalement décide que sa poupée est une vraie fiancée, et la psy dit à son entourage, oui, il faut rentrer dans cette idée que c'est une vraie fiancée, et donc il faut la recevoir à table et avoir une vraie vie. Et c'est comme ça que le type va pouvoir se soigner,
ouais.
et en quelque sorte avoir une vraie fiancée. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces films, la liaison avec la poupée se termine à un moment donné.
Oui, alors ça c'est absolument passionnant. La poupée en fait induit l'humain à entamer un jeu qui se rapproche énormément du phénomène de la croyance. Hein. C'est-à-dire, on est dans un fait religieux en fait. C'est-à-dire
vous évoquez même la Vierge Marie.
Oui,
ça m'a pas échappé.
Croire, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond, j'y crois pas, mais quand même. Hein, c'est toujours cette notion d'incertitude. Et la poupée participe parce que elle relève de la fiction. Or la fiction n'est ni vérité ni mensonge. Elle est un espace intermédiaire qui invite les hommes à entretenir avec le réel une relation équivoque, qui est divisée, qui est contradictoire, qui est remplie de questionnements. Et en cela, donc, la Love Doll est un outil de culte, littéralement.
Sixtine, oui, très vite.
Je suis très obsessionnelle, mais vous savez que le je sais bien, mais quand même, c'est quand même un article d'Octave Manoni
voilà.
dédié au fétichisme.
Voilà,
donc,
oui, tout à fait.
Je pense.
Ouais, ouais, ouais. Merci de donner la référence exacte de cette magnifique définition. Voilà. Ouais.
Mauvais genre va vers sa fin. Une préconisation manga, monsieur Fausto.
Bah oui, une, il y en a tellement, mais une en tout cas, enfin, Virgin Dog Revolution, qui est un manga d'un jeune auteur tout à fait inconnu en France. C'est la première fois qu'il est publié, il s'appelle Shohei Sasaki. Il y a une obsession pour les mutations corporelles. Là, en ce qui concerne Virgin Dog Revolution, c'est un manga écologique. En deux volumes seulement, donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas devoir en acheter 35, 40 ou 50.
C'est à disposition.
C'est chez Akata, dans la collection...
C'est paru, là.
Voilà, c'est paru, et c'est dans la collection What the Fuck, et pour le pitch, très rapidement, c'est l'histoire d'un otaku, justement, qui a été hypnotisé, et à la suite de cette séance d'hypnose, il pense être un homme-chien, ce qu'il est d'ailleurs, puisqu'il va finir par muter, et il va lever une révolution animale, donc tous les animaux vont se retourner contre leur propriétaire dans les rues de Tokyo, donc un loulou de Poméranie va sauter à la gorge de sa maîtresse, des canards vont percer les yeux des passants. Bref, un festival absolument déluré qu'on ne peut retrouver dans aucun autre médium à part le manga, évidemment.
Merci Fausto Fazulo, merci Agnès Giard.
Merci beaucoup
d'avoir été l'invité de Mauvais Genre. Donc je recommande évidemment très chaudement.
Nous recommandons tous
Un désir d'humain, les Love Dolls au Japon, qui est un magnifique ouvrage, je dirais, d'anthropologie et de grande sur la civilisation érotique. Un ouvrage tout à fait considérable et de référence désormais. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Delphine Lemaire, Julie Guéraud, Claire Martin-Duguerre, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre la semaine prochaine. Mais ma foi, ce sera tout à fait autre chose, puisque nous resterons dans Paris en compagnie de Jacques Yonnet. Nous emprunterons la rue des Maléfices et nous irons de troquet en troquet grâce à ce grand piéton de Paris. Bonsoir à tous.